France Culture.
France Culture, avec philosophie, Géraldine Mühlmann.
L'imitation, voilà notre sujet cette semaine. Premier épisode, la notion de mimésis, ou la grande querelle entre Platon et Aristote. Du signe qui fait reconnaître une chose, à la musique qui la fait ressentir, du récit au théâtre, du mime au dessin et à la poésie. Que faisons-nous là ? Nous imitons le réel jusqu'à parfois l'inventer tout à fait. C'est ainsi en tout cas que les philosophes grecs anciens pensaient ces activités. Et c'est le mot mimésis qu'ils sollicitaient pour en parler. Un mot dont l'extension exacte est d'ailleurs à elle seule un sujet, nous l'évoquerons. D'après ce que j'en ai compris, la forte critique de la mimésis par Platon ne porte pas tellement sur les signes qui imitent une réalité pour faire comprendre qu'on parle d'elle. Quant aux formules permettant de faire voir des vérités mathématiques, par exemple, cela non plus n'est pas bien grave pour Platon. Et puis les récits historiques, il sait aussi que les humains en ont besoin. En revanche, poésie, peinture, théâtre. Là, Platon sort les griffes. Et il faut se demander pourquoi. Pourquoi est-il si dangereux et blâmable pour Platon d'imiter la réalité jusqu'au point où on la représente de manière fictive ? Et pourquoi Aristote, de 43 ans plus jeune que Platon, dont il a suivi les cours à l'Académie, réhabilite-t-il, au cœur du IVe siècle avant notre ère, toutes ces activités jugées peu morales par Platon ? Est-ce parce que précisément Aristote ne veut plus moraliser d'emblée la mimésis au cœur des arts, mais l'analyser pour en comprendre les effets subtils ? Est-ce parce que Aristote désire affronter plus que condamner la complexité des sentiments suscités? Beaucoup de questions à poser à nos spécialistes invités ce matin. Bonjour Fulcran Tesserinck. Est-ce que je prononce bien ?
Fulcran Tesserinck.
Fulcran Tesserinck.
Voilà.
Vous êtes agrégé docteur en philosophie, professeur de Cagnes au lycée Lacanal, excellent connaisseur de la pensée de Platon. Bonjour William Marx.
Bonjour.
Vous êtes professeur au Collège de France, titulaire de la chaire littérature comparée. Vous êtes un très fin connaisseur de la pensée grecque, de ce qu'elle dit de la tragédie, et notamment de la catharsis, notion très importante aussi pour nous ce matin. Vous nous expliquerez notamment la réponse d'Aristote à Platon. Les références de vos travaux, chers invités, sont précisées sur le site de notre émission. Et pour commencer notre réflexion, je voudrais clarifier un peu ce que mimésis recouvrait pour Platon et pour Aristote. La même chose pour les deux ? Non, pas la même chose, vous me direz. Et puis j'aimerais savoir si vraiment le mot français « imitation » est la juste traduction de « mimésis ». Qui veut commencer ? Allez, peut-être Fulcran Tesserinck.
Bon. Écoutez, je crois que le mot « imitation » qui, en français, rend « mimésis », n'est pas un mauvais mot de ce point de vue. Enfin, je crois qu'il est assez fidèle à la nature même du mot grec. Le mot grec a évidemment une portée très large. Et Platon est en effet un des premiers à lui donner un emploi philosophique très étendu. On peut repérer trois domaines dans lesquels, à mon avis, le terme de mimésis, donc d'imitation, intervient fondamentalement. Alors, il y a d'abord, du plus loin de notre sujet d'aujourd'hui, le domaine métaphysique. C'est-à-dire que, pour Platon, l'imitation est aussi une façon de penser la relation qui existe entre des entités intelligibles, ce qu'on appelle les formes ou les idées chez Platon, et la réalité sensible, perceptible, qui se donne donc à nos sens. Et le rapport des deux...
La table, ici.
Alors, voilà, on pourrait dire qu'il y a la table qui nous réunit, mais il y a aussi l'idée de table, qui est une réalité intelligible, pensée, accessible du moins à notre pensée, et donc cet objet matériel que nous percevons. Et le rapport de l'un à l'autre est parfois énoncé comme étant un rapport d'imitation. Mmh. Donc, l'objet sensible reprendrait, imiterait l'objet intelligible. Voilà. Ça, c'est une première grande thèse platonicienne. Alors, il peut parfois nommer autrement ce lien de l'objet sensible à l'objet intelligible. Il emploie un autre terme qui est concurrent de celui d'imitation, qui est celui de participation. Mm-hmm. Bon. Et je crois que, effectivement, ce terme est un peu plus juste. Peut-être que imitation, ici, est un terme un tout petit peu métaphorique.
Donc Mimesis
serait déjà une métaphore.
La table sensible face à nous participe de l'idée de table intelligible.
Voilà. Recevrait de cette idée un certain nombre de déterminations qui feraient que précisément cette table est ce qu'elle est.
Entendu.
Voilà. Et puis vous avez un deuxième domaine, évidemment très important, qui est le domaine pratique, alors plus exactement le domaine de l'action. Et cette action est elle aussi susceptible de se modeler sur un certain nombre de paradigmes. Et de ce point de vue, l'action peut être pensée à son tour comme étant en partie mimétique.
Je reconnais que moi, ça, je n'ai jamais très bien compris.
Oui.
L'action, donc, ne crée rien pour Platon. Elle ne fait qu'imiter des actions possibles, intelligibles. C'est ça que vous
dites ? Alors, c'est pas tout. Alors, elle peut en partie imiter des actions intelligibles. En réalité, le lien est un tout petit peu indirect. Le fait que l'agent qui se conduit d'une certaine manière se conduit d'après des qualités morales qui sont les siennes, d'après son caractère. Et ce caractère qu'il a est lui-même possiblement modelé d'après une forme de vertu, hein, une forme, alors là pour le coup, intelligible de vertu, et donc son action exprimant son caractère peut se retrouver de ce fait liée à réalité intelligible qui est la définition ou l'essence de la vertu. Hein, il y aurait donc une essence de la vertu qui serait en quelque sorte reflétée par le caractère,
l'action plus ou moins,
de façon plus ou moins adéquate, et l'action, la conduite, le comportement, voire la parole même des individus peut exprimer à son tour ce caractère. Donc vous avez ce deuxième niveau. Et puis, vous avez peut-être aussi un troisième niveau qui est un peu plus indirect à percevoir chez Platon, mais qui est une imitation, beaucoup plus difficile à saisir entre les choses, entre deux entités, l'une imitant l'autre, mais paradoxalement, cette imitation, elle est une imitation d'autonomie. C'est-à-dire que le modèle est un modèle qui agit par lui-même, de lui-même, de façon rationnelle, et l'objet qui imite, l'être qui imite, se calque sur le modèle en reprenant cette rationalité et en reprenant cette autonomie.
Et quelle est la différence avec le premier point ?
Alors, c'est une continuité, sensible. Vous avez raison, c'est une forme de continuité, sauf que ici, ce qui est assez singulier, c'est que l'imitation est en un sens formel et renvoie chacun à sa propre rationalité. On imite un modèle rationnel, comme le monde, par exemple, et en étant soi-même rationnel. Voilà.
William Marx, à votre tour, s'il vous plaît, de nous dire ce que signifie mimesis pour les Grecs. Peut-être voulez-vous ajouter quelque chose, une remarque concernant Platon, mais bien évidemment, sur Aristote, je vous attends, je vous écoute, vous en êtes un spécialiste.
Chez Aristote, il me semble que la limitation, elle est vraiment partout, dans toutes les actions humaines. Et l'une des grandes différences, me semble-t-il, entre la position aristotélicienne et la position platonicienne, c'est que, comme l'a très bien dit Fulcran Tesserin tout à l'heure, chez Platon, la question de limitation, c'est une question de type métaphysique et ontologique. C'est une question de définition, de différenciation entre différents degrés de réalité. Alors que pour Aristote, l'approche est beaucoup plus anthropologique. Il va considérer que l'imitation, elle est partout, quasiment dans toutes les actions humaines. Dès l'enfance, les hommes sont naturellement enclins à imiter. C'est le début du chapitre 4 de la poétique. Donc c'est quelque chose qui est inscrit dans l'action humaine, et quasiment une bonne partie de toutes les réalisations humaines sont basées sur l'imitation. Pas seulement sur l'imitation, on y reviendra, celle du théâtre, celle de la peinture, celle de liée à la poésie, mais par exemple on trouve l'imitation dans un art que aujourd'hui ne lirions pas à l'imitation, qui est l'art de la musique.
Mm-hmm. Hein.
La musique est aussi imitative. Alors, on imite pour Aristote dans la musique, par la musique, on imite les émotions, un certain type d'humeur. Il se trouve que dans la musique antique est basée sur des modes. Aujourd'hui, nous n'avons plus que les modes majeurs et mineurs. Le mode majeur est plutôt gay ou positif et le mode mineur plutôt triste. On avait beaucoup plus de modes dans la musique oui. grecque antique, le mode lydien, le mode phrygien, etc., qui étaient supposés représenter un certain type d'humeur, d'émotion. Et en plus, la musique était souvent accompagnée de danse. Et donc, l'idée que la musique est imitative est quelque chose de très intéressant parce que ça nous indique que l'imitation pour Aristote est d'un emploi beaucoup plus large que ce que nous imaginons aujourd'hui. Du reste, les traductions contemporaines de ce terme ont beaucoup évolué. On a voulu traduire, par exemple, imitation par représentation.
Oui.
Dans les traductions, celle de Jean Lalo et Roselyne Dupont-Roch dans les années 70, une traduction qui a fait date. Et alors la traduction comme représentation est intéressante parce qu'elle renvoie simplement au résultat, au bout du compte, de l'imitation, à savoir un produit qui est là et qui est donné comme une sorte de donnée qui fait sens en lui-même. Alors que dans le terme d'imitation, mimeistai, il y a quelque chose qui est de l'ordre de l'action. Hein, c'est-à-dire, il faut revenir à ce qui est quelque chose qui est inscrit dans quasiment une pulsion, une nature humaine. Et chez Aristote, on aura l'occasion d'y revenir, mais l'imitation est envisagée non seulement du point de vue du produit, c'est-à-dire du point de vue de la représentation, ce qui est donné par l'imitation, elle est envisagée du point de vue du désir d'imiter, du besoin d'imiter qui est chez les humains, mais elle est aussi envisagée du point de vue de la réception, c'est-à-dire de la manière dont les êtres humains, les spectateurs des tragédies, eh bien, reçoivent ces imitations et la façon dont ces imitations agissent sur les spectateurs. Donc, en fait, on a affaire à une sorte de conception ou d'appréhension de l'imitation beaucoup plus, je dirais, très pragmatique.
Mais qu'est-ce qu'on imite ? Parce que chez Platon, on a bien senti dans ce que vous nous disiez, Fulcran Tesserin, qu'il y a toujours l'idée que tout ce qui existe sensiblement a un modèle premier qui est intelligible. Il y a une idée de la table avant qu'il y ait une table sensible. Mais chez Aristote, est-ce que la différence ne serait pas que justement il n'y a pas toujours un modèle intelligible que le sensible imiterait? Il y a aussi du sensible qui imite du sensible, des affects théâtraux qui imitent des affects réels. Et le problème n'est pas totalement structuré par le rapport entre l'intelligible et le sensible comme il l'est chez Platon.
Dans l'une des grandes différences entre Aristote et Platon du point de vue de l'imitation, et en particulier de l'imitation tragique, celle qui se fait au théâtre, c'est que pour Platon, je parle sous le contrôle de Fulcran Tesserin, l'imitation est d'abord une imitation de caractère. C'est ce que disait Fulcran
oui,
à l'instant.
Vous avez bien expliqué
Alors que pour Aristote, eh bien, l'imitation tragique, l'imitation au théâtre, n'est pas l'imitation d'abord de caractère. Le caractère, c'est secondaire. C'est par rapport à autre chose qui est visée par l'imitation théâtrale, qui est l'imitation d'une action. Et donc, parce que le théâtre nous présente l'imitation d'une action qui est faite par des êtres humains et les caractères, l'imitation des caractères, elle peut être utile pour rendre plus plausible l'action, mais elle n'est pas absolument nécessaire. Et donc, effectivement, imiter l'action, ce n'est pas imiter quelque chose qui préexisterait
à l'action
du point de vue des idées.
Oui, c'est pas ça.
C'est quelque chose qui
ouais.
est fait par les humains. Donc, les humains s'imitent eux-mêmes.
Et l'action elle-même originelle n'est pas forcément pensée d'emblée comme l'imitation de quelque chose qui relève d'une idée de la vertu. Le problème n'est pas tout le temps rapporté à une sorte d'origine intelligible des choses.
En fait, l'imitation fait sortir l'intelligible. C'est-à-dire que l'intelligible ne préexiste pas, en quelque sorte, à l'imitation.
Oui, chez Aristote. Oui.
Mais je parle d'Aristote, oui. Ici. L'imitation fait sortir un intelligible du réel. Et quelque chose qui est tout à fait intéressant dans la poétique, où Aristote dit, je crois que c'est le chapitre 9, que la poésie est plus philosophique que l'histoire. Pourquoi la poésie est-elle plus philosophique que l'histoire? Parce que l'histoire, on pourrait dire, elle nous parle de la vérité, elle nous décrit la vérité. Donc, du point de vue de Platon, elle devrait être beaucoup plus proche de la réalité. Mais la poésie est plus philosophique que l'histoire parce que la poésie nous propose des actions qui sont vraisemblables, qui n'ont pas eu lieu à un moment donné de l'histoire, mais qui pourraient avoir lieu. Et donc la poésie est plus générale que l'histoire, cette généralité étant liée à l'idée de vraisemblance. Et donc les situations, les actions qui sont représentées dans la poésie, si elles n'ont pas eu lieu à un moment donné de l'histoire, en revanche, elles pourraient avoir lieu, elles peuvent avoir lieu à tout moment dans le cours des événements humains. Et donc de ce point de vue-là, c'est beaucoup plus philosophique et général même que l'histoire. Donc l'intelligible, en fait, l'imitation est une manière pour les êtres humains d'arriver à une sorte d'intelligibilité du réel.
Évidemment, on va avoir l'avis de Platon, vous allez pouvoir commenter ce point fulgurant Tesserin, mais je voudrais nourrir votre commentaire d'un texte très célèbre de Platon, qui est extrait du livre 10 de la République, ce livre où la question de la mimésis est travaillée de très près. Je vous propose qu'on entende ce texte, et puis ensuite vous ramasserez tout ce qui vient d'être dit pour nous faire mieux comprendre encore la position de Platon.
Examine ce point précisément, Glaucon. Dans quel but a été créé l'art de peindre pour chaque chose? En vue d'imiter ce qui est tel qu'il est, ou bien ce qui apparaît tel qu'il apparaît? Est-il une imitation de l'apparence ou de la vérité?
De l'apparence, Socrate.
Par conséquent, l'art de l'imitation est assurément loin du vrai, et apparemment, s'il s'exerce sur toute chose, c'est parce qu'il ne touche qu'à une petite partie de chacune et qu'il n'est qu'un fantôme. Ainsi, le peintre, affirmons-nous, nous peindra un cordonnier, un menuisier, les autres artisans, alors qu'il ne connaît rien à leur art. Cependant, pour peu qu'il soit bon peintre, s'il peignait un menuisier et le leur montrait de loin, il pourrait tromper au moins les enfants et les fous en leur faisant croire que c'est véritablement un menuisier.
Oui, forcément.
Eh bien, mon ami, voici, je crois, ce qu'il faut penser de toutes les choses de ce genre. Lorsque quelqu'un nous annonce, en parlant d'un certain homme, avoir rencontré en lui un homme qui connaît tous les arts et tous les autres savoirs que tel ou tel possède chacun pour sa part, un homme dont il n'est rien qu'il ne connaisse plus exactement que quiconque, il faut lui répliquer qu'il est un naïf, et qu'il a apparemment rencontré un sorcier, un imitateur, et s'est si bien laissé tromper par lui que ce dernier lui a semblé être un expert universel, parce que lui-même n'est pas capable de distinguer le savoir du manque de savoir et de l'imitation.
Dialogue entre Glaucon et Socrate, tout cela est écrit par Platon, c'est le dialogue La République, ici Aloïs Guérin incarné Glaucon, Nicolas Berger et Socrate, si je ne me trompe pas, c'est peut-être l'inverse d'ailleurs, c'est plutôt l'inverse. Je vous écoute pour ce commentaire, c'est un texte très célèbre,
oui,
très difficile je trouve, je ne vous cache pas. On vous écoute Fulcran Tesserin.
Non, c'est un texte en effet singulier, alors c'est un texte singulier et en même temps fondateur parce que il est un texte qui orchestre la comparaison, l'analogie entre la peinture et la poésie. Et c'est pas le seul endroit où en effet Platon examine de pair ces deux arts dans La République. Il le fait aussi au livre 3 de La République, de sorte que la mimésis, en fait, poétique, elle est abordée à deux endroits différents dans l'œuvre de La République, et sous des angles légèrement différents. Mais en tout cas, ce texte-ci est un texte donc qui insiste sur cette analogie entre peinture et poésie, et qui les présente tous les deux comme relevant de la mimésis. Et Aristote, d'ailleurs, à cet égard, en partie conserve la leçon de son maître, parce que dans la poétique, il va au moins à 4 ou 5 reprises à nouveau développer une comparaison, une analogie entre poésie et peinture.
Est-ce que, juste pour qu'on comprenne, encore une fois, je crois qu'il y a une vertu des exemples, il y a une idée de table, il y a la table sensible réelle construite par le menuisier qui imite l'idée de table, et ensuite il y a le peintre éventuellement qui imite ce que déjà le menuisier a imité. Il y a des niveaux de mimesis.
Il y a trois niveaux ontologiques. Alors c'est présenté justement dans ce livre 10. Alors c'est pas l'exemple de la table, c'est l'exemple du lit. Et c'est une analyse très connue également de Platon. Maintenant, ici, vous avez un texte qui attaque la mimésis, qui est vraiment une présentation polémique de cette mimésis, à la fois picturale et à l'horizon poétique. Alors, évidemment, on pourrait se demander, mais à supposer qu'il y ait ces trois degrés, comme vous venez de le rappeler, où est le danger de la mimésis ? Parce qu'après tout, il y aurait des images, en plus des objets matériels qui eux-mêmes s'ajoutent aux objets intelligibles. Eh bien, après tout, pourquoi pas ? Je veux dire, on pourrait avoir une ontologie généreuse et accueillir comme cela dans le mobilier du monde diverses entités, et donc on aurait d'un côté les réalités intelligibles, les réalités matérielles et sensibles, et puis les images. Bon, pourquoi se plaindre ?
Pourquoi ?
Alors, on peut se plaindre d'abord parce que l'image sensible, l'image fabriquée par le peintre, est évidemment une image qui s'applique ou est supposée représenter, reprendre l'objet matériel et sensible. Et donc, à ce titre, elle peut apparaître comme une forme de célébration de cette réalité sensible, et elle focalise en quelque sorte le regard du spectateur sur la réalité sensible, et elle tendrait de ce fait à faire oublier la réalité intelligible. Donc on pourrait, en un sens, faire le reproche à la peinture de nous fixer sur un certain nombre de réalités qui sont matérielles, et donc voilà. Mais ceci dit, personne n'est vraiment trompé par une image. On ne confond pas les images sensibles, picturales, avec les objets matériels. Et c'est ce que dit, d'ailleurs, Platon. Il dit, au fond, si vous prenez un peintre qui fabrique des images, qui va-t-il tromper ? Il va tromper éventuellement les enfants et les fous. Bon, ça compte pas.
Ça, ce n'est pas très grave. Alors, qu'est-ce qui est grave ?
Tromper au sens faire prendre l'image pour la chose. Ça, en fait, ça ne pourrait arriver que auprès des enfants et des fous. Mais personne ne va s'allonger dans un lit en peinture. Voilà. Donc tout le monde fait la différence entre le lit en image et le lit réel. Bon. Donc en réalité, le procès de tromperie est un faux procès.
Oui.
Ici.
Platon est plus profond que cela dans sa critique.
Platon, au fond, ce qu'il reproche, c'est simplement au fond de nous attacher à ces réalités sensibles par la peinture et de nous faire oublier peut-être qu'il existe des réalités intelligibles. Mais il y a un autre problème ici qui est très intéressant. C'est que somme toute, la mimésis platonicienne, elle est pensée comme se distribuant en deux. En gros, vous avez les réalités sensibles, matérielles, qui sont imitées par le peintre. Le peintre en fait des images. Et puis, vous avez les actions, la conduite humaine, et elle donne lieu à une autre mimésis, qui est la mimésis poétique. En gros, il distribue les choses comme ça. Sauf que, ici, vous avez l'exemple du charpentier, vous avez l'exemple du menuisier qui serait peint. Alors là, c'est assez troublant parce que c'est pas fréquent quand même qu'un menuisier ou un charpentier soit représenté par un peintre. Un peintre, il va représenter des héros, des personnages, éventuellement des objets matériels, mais il va pas peindre spécialement un artisan. C'est assez curieux. Alors, pourquoi faire intervenir ici un artisan ? Je crois que dans ce texte, au fond, l'idée de faire un parallèle ensuite avec la peinture. Parce que l'artisan, il a une compétence. Il a un savoir. Et donc, ce savoir, il se manifeste par sa conduite. Bon. Et donc, si le peintre veut représenter un artisan, il faut qu'il le représente compétent. Il faut qu'il montre que cet artisan dispose d'un savoir-faire.
Oui.
Et donc, il faut qu'il y ait, en quelque sorte, au-delà de la mimésis, de la représentation du peintre, une autre mimésis qui est ce que j'appelle mimésis interne, c'est-à-dire l'adéquation entre la conduite du charpentier et sa compétence. Est-ce que le peintre est en capacité de montrer un artisan compétent ?
Mais pourquoi pas?
Parce qu'il faudrait qu'il ait le savoir du charpentier.
Et peut-être qu'il l'a?
Et non.
D'après Platon, il ne l'a pas. Ouais.
Alors, pourquoi est-ce qu'il ne peut pas l'avoir? Il y a des arguments qui vont arriver par la suite. Mais oui. Ici, l'argument qui est donné dans le texte, c'est qu'au fond, le peintre, il représente toutes sortes de personnages, il représente toutes sortes de métiers, toutes sortes d'individus. Et donc, il faudrait qu'il ait un savoir universel. Il faudrait qu'il connaisse toutes les compétences. Ouais. Ce qui n'est pas le cas.
Alors maintenant, je vais vous proposer un petit exercice avant qu'on passe à la critique d'Aristote. Je vais vous donner deux exemples, des extraits sonores, des extraits sonores qu'on trouve dans le domaine du reportage ou de l'information, et puis un autre dans le domaine cinématographique, où il semble y avoir de la mimésis, de l'imitation. J'ai l'impression que dans le premier cas, pour Platon, ce serait moins grave que dans le deuxième. Mais je peux me tromper. Alors voici d'abord un mix d'éléments sonores qui concernent ce jeu qu'on appelle le Pictionary. Le Pictionary exige des joueurs que lorsqu'ils tirent une carte avec un objet, ils en fassent un croquis, un petit dessin, pour le faire deviner le plus vite possible aux autres. Et plus ils font deviner vite par leur croquis, qui imite, vous me l'accorderez, l'objet dont ils ont eu le mot, plus ils imitent, mieux ils gagnent. Écoutez donc ces petits extraits sonores qui concernent ce jeu Pictionary.
Une brique, une boîte, un carré, et c'est une maison. Une maison. Banane, cheminée. C'est un fruit? Une maison, un restaurant, ou
une cheminée.
Un four, Père Noël. C'est pas un interphone.
Interphone.
Mais oui, bien sûr.
Merci.
Bon, allez, c'est à moi.
Un rein. Rein. Ça y est, je l'ai, c'est le passage du rein.
Oui. Plus que 30 secondes.
Allez. Oh, c'est un papillon. C'est le papillon que Maria Carré s'est fait tatouer en bas du dos.
Oui.
Excellent, John.
J'aurais dû trouver bien avant. J'ai écrit une thèse sur ce tatouage quand j'étais étudiant.
Et voici maintenant un autre exemple de mimésis, et là, à mon avis, aussi bien chez Platon qu'Aristote. C'est un extrait du film Petite Maman, réalisé par Céline Sciamma, sorti en 2021, où on entend des enfants jouer une tragédie.
Je me suis couchée à 21h, il faisait encore jour, et quand je me suis réveillée, il était à côté de moi, mort.
Il est mort entre 3h et 6h du matin. Vous n'avez vraiment rien remarqué d'anormal?
Il était assez soucieux ces temps-ci. Il avait des problèmes à l'usine Coca-Cola.
Quel problème?
Je ne sais pas, il était assez secret.
Et vous?
Moi?
Vous êtes secrète?
Vous savez, les secrets, c'est pas forcément des choses qu'on cherche à cacher. C'est juste qu'on n'a personne à qui les dire.
Je vous écoute.
Tu joues trop bien! Toi aussi. J'aimerais bien être actrice.
Vraiment?
Oui. C'est mon rêve.
Tu pourrais.
Tu trouves?
Oui.
France Culture. Avec philosophie. Géraldine Mulman.
Fulcran Tesserin, est-ce que pour Platon, imiter pour faire deviner quelque chose, comme dans le cas du Pictionary, c'est moins grave que d'imiter, comme dans le cas du théâtre ici enfantin que nous avons entendu, qu'imiter pour donner l'impression d'une réalité?
C'est moins grave pour donner l'impression d'un savoir.
Donc c'est moins grave. C'est moins grave, par exemple, un signe ou un ensemble de formules qui signifie, c'est leur définition, une réalité intelligible comme un théorème, par exemple. Ça, c'est pas le problème pour Platon.
Non, c'est pas vraiment le problème, non.
Alors, et les récits historiques qui répètent, imitent, qui narrent plus qu'ils n'imitent des agencements de faits.
Alors, Platon est lui-même un fabricant de mythes. Enfin, je veux dire, c'est quand même peut-être le plus grand fabricant de mythes de l'Antiquité.
C'est moins grave, ça, pour lui, que de faire du théâtre et d'imiter quelque chose qui, en plus, risquerait de n'avoir pas existé. Alors là, c'est la catastrophe, non?
C'est-à-dire que je crois que c'est pas l'imitation en tant que telle qui est grave. C'est quand cette imitation porte sur des individus qui sont supposés agir en fonction d'une certaine vertu ou d'une certaine compétence. Et c'est lorsque, précisément, on imite ces personnes-là qu'on peut induire en erreur parce que, précisément, on ne les représente pas avec le savoir qui convient, c'est-à-dire avec la vraie compétence qu'ils ont, avec la vraie vertu qu'ils ont. C'est ça le problème majeur, c'est que la tragédie représente des individus qui agissent en prétendant posséder une certaine vertu, ou même, à la rigueur, en ayant un certain vice, mais leur comportement, leur attitude, n'est pas celle ou n'est pas celui de quelqu'un qui a réellement ce vice ou cette vertu. C'est là le problème majeur de la représentation tragique.
Alors venons-en maintenant à ce qu'Aristote aurait pensé de nos deux exemples. William Marx, ai-je tort d'envisager que sa réponse serait « Tout ça c'est la vie, on imite plein de choses pour se faire comprendre ». Pour faire sentir des choses, des sentiments, tout ça n'est pas bien grave.
Oui, je pense que ce serait là, sans doute, la position d'Aristote face à ces deux extraits. L'un, le premier, Pictionary, c'est un peu l'invention d'un langage. Il s'agit de désigner quelque chose qui est ailleurs. On essaie de trouver la meilleure manière possible de désigner cette idée. Donc, c'est quasiment le rôle du philosophe, au bout du compte, de dire et de montrer une idée, alors par le biais d'un dessin. En revanche, les enfants là qui jouent la tragédie, c'est magnifique cette scène-là, parce que ça me rappelle précisément ce texte fameux de Borges, Jorge Luis Borges, oui. Au début de la nouvelle, La quête d'Averroès, et qui a un rapport avec la poétique d'Aristote. C'est l'histoire du philosophe arabe Averroès, qui essaie de traduire la poétique d'Aristote en arabe. Mais il bute sur la question du théâtre, qui est pourtant fondamentale dans la question de la poétique, parce que dans le monde arabe, le théâtre n'existe pas. Et donc, il ne sait pas comment entendre cela, et pour lui, effectivement, il entend la comédie comme étant la critique, le reproche, et la tragédie comme étant l'éloge, et donc c'est un peu comme ça qu'il comprend, mais il n'y a pas de théâtre dans le monde arabe, donc il ne sait pas comment comprendre ce que dit Aristote. Mais, alors que Averroès travaille à cette traduction, en bas de chez lui, dans la cour, il y a des enfants qui jouent à imiter, ben voilà, comme font les enfants, des choses de la vie quotidienne.
Des jeux
ils
de
jouent
rôle.
À la marchande, ils jouent aux policiers, aux gardiens, à la guerre, tout ce qu'on veut. Et Averroès les voit, mais il ne comprend pas qu'en fait ces enfants sont en train de faire du théâtre.
C'est-à-dire en tout précisément, cas, dans la nouvelle, Averroès ne comprend pas.
Voilà. Donc l'énigme est devant lui, la solution de l'énigme est devant lui, mais il ne la voit pas. Et parce qu'effectivement, c'est quelque chose qui devrait nous crever les yeux, c'est-à-dire qu'en fait, pour Aristote, tout chez nous passe en gros par l'imitation. C'est-à-dire que la connaissance passe par l'imitation et le plaisir que nous avons à l'imitation, le premier plaisir que nous avons à l'imitation, c'est le plaisir de la connaissance. Parce que, alors c'est quelque chose sur quoi Aristote revient très régulièrement, je crois que c'est au début de la métaphysique, il dit que tous les hommes désirent naturellement connaître. Oui. Hein. C'est ça qui est très important, mais le désir de connaissance est fondamental chez les êtres humains, et le plaisir propre, principal de l'imitation, c'est un plaisir c'est un plaisir de connaissance. Et Aristote en donne une preuve, qui est une preuve assez paradoxale, une sorte de contre-épreuve. En gros, c'est une sorte de réponse à Platon, de ce point de vue-là. Parce que si on faisait, avec Platon, l'hypothèse que le plaisir ou le rôle des imitations était lié à leur participation à la réalité même de la chose, à ce moment-là, il devrait y avoir une sorte de rapport entre ce qui est de la réalité de la chose à la réalité de l'imitation. Et Aristote va nous dire l'inverse. C'est-à-dire que nous prenons plaisir, paradoxalement, à des imitations d'objets qui sont répugnants dans la réalité, oui. qui nous dégoûtent. Si on était avec Platon, à ce moment-là, le côté répugnant de la réalité devrait le trouver dans l'imitation. Mais si, au contraire, avec Aristote, et c'est un peu ce qui se passe, nous avons du plaisir à voir une représentation d'un objet répugnant, c'est parce qu'en fait, il n'y a pas de participation de l'imitation à l'objet réel. Le plaisir que nous avons dans l'imitation d'un objet répugnant, horrible, c'est un plaisir de connaissance. Nous avons du plaisir, nous dit Aristote, à voir la manière, l'art avec lequel le peintre, par exemple, ou le poète, a réussi à imiter quelque chose de répugnant. Et donc là, il y avait, me semble-t-il, une sorte, un peu d'impensé dans la question de l'imitation chez Platon, à savoir, il parle beaucoup de l'art du menuisier, l'art du guerrier, etc., mais il ne parle jamais de l'art du poète. Quel est l'art propre, spécifique du poète? Et c'est en fait un art qui a un rapport avec la connaissance même de la connaissance même de la chose.
Alors merci pour ces exemples que vous donnez. Il y a un côté baudelairien dans ce que vous dites, c'est-à-dire le lait peut représenter devenir beau, une charogne par exemple, de la saleté, la boue de Paris devient de l'or une fois qu'on l'a poétiquement élaboré. Mais peut-être qu'un platonicien pourrait répondre, eh ben ça c'est pervers. Voilà ce qui répondrait peut-être le platonicien. Vous êtes d'accord?
Oui, enfin pas tout à fait.
Filcran Tesserin.
Non, je suis pas tout à fait d'accord parce que je pense que comme l'a dit William Marx, effectivement, dans la mimésis poétique ou picturale du reste, il y a pour Aristote un plaisir induit de connaissance chez le spectateur qui appréhende quelque chose dans l'image et dans l'imitation qui est pour lui une découverte. Qu'est-ce qu'il appréhende? Il appréhende quand même quelque chose comme la forme ou l'essence de la chose. C'est-à-dire que l'imitation picturale arrache en quelque sorte l'objet à sa matérialité, à sa particularité et en procure une forme, le ce que c'est.
Sans saveur, sans odeur, sans...
Voilà. Le ce que c'est. Ouais. Et c'est cette reconnaissance, au fond, de cette identité de la chose par l'image qui procure du plaisir. On a plaisir à voir une belle représentation d'une chose vile parce que la belle représentation donne accès à la forme même de
la
chose.
Et donc là, Platon ne condamnerait pas?
Alors, Platon ne condamnerait pas si d'aventure, en effet, l'image ouvre cet accès à la forme de la chose, je pense.
Ah, c'est très complexe. Alors, j'ai du mal encore à comprendre, c'est
cette notion de plaisir. Il n'en est pas convaincu, à la différence d'Aristote.
Il n'est pas convaincu. En tout cas, le plaisir, vous avez beaucoup prononcé ce mot, il est au cœur du chapitre 4 de la poétique d'Aristote. Le plaisir, William Marx, le plaisir esthétique, est d'emblée une source de connaissances possible, intéressante comme notion pour Aristote, alors qu'il y a cette méfiance platonicienne bien plus immédiate. Est-ce que c'est comme cela que vous pourriez nous faire comprendre la position d'Aristote?
Deux choses. Il y a pour Aristote effectivement l'idée que le plaisir est l'un des moteurs principaux de l'action humaine. Donc ça c'est le plaisir que nous avons à connaître. Et donc il est important de partir de la réalité même de la nature humaine. C'est ce que fait Aristote. Ce plaisir que nous apprenons aux imitations. Maintenant ce plaisir est-il d'ordre esthétique comme vous l'avez dit? La chose est un tout petit peu plus complexe que cela. En fait il y a trois plaisirs liés à l'imitation. Le premier plaisir, nous l'avons dit à l'instant, c'est le plaisir de type cognitif. C'est-à-dire le plaisir que nous avons à retrouver dans l'objet, dans l'imitation. C'est vrai que ce terme français, imitation, désigne deux choses à la fois. L'action d'imiter et le résultat même de cette action. Alors qu'en fait, nous devrions avoir un troisième thème qui est l'imitème ou voilà l'imitant en fait, quelque sorte qui serait le résultat de l'imitation. On a vraiment un problème du point de vue du français avec le mot mimesis. Mimesis en fait nous désigne l'action même d'imiter, mais après il y a le résultat qui peut être un tableau, un poème. Mais donc on a un plaisir cognitif à voir une imitation parce que, comme nous dit Aristote, je le cite, quand on voit une image, on les contemple, on apprend, on raisonne sur chaque chose comme lorsque l'on conclut, cette image, c'est lui. Et ce plaisir-là, c'est un plaisir effectivement de reconnaissance.
Et voilà. De connaissance, on apprend, on raisonne.
C'est pour ça que la poésie, comme nous disions tout à l'heure, la poésie, et comme le dit Aristote, la poésie est plus philosophique que l'histoire. Donc il y a un effet de connaissance, c'est pas plus qu'un effet, il y a une connaissance qui nous est transmise par la poésie. Ce premier plaisir, ce premier rôle de l'imitation est de type cognitif. Le deuxième plaisir, et moindre pour Aristote, c'est le plaisir de type esthétique. C'est le terme que vous avez employé. Oui. Alors pour Aristote, ce plaisir-là existe, mais c'est un plaisir un peu un peu secondaire. Parce que la l'imitation elle-même, elle emploie des moyens particuliers. Le peintre va employer des couleurs, il va employer le dessin. Le musicien va employer des sons particuliers. L'acteur va faire certains types de mouvements. Alors, tous ces moyens matériels de l'imitation, donc, engendrent aussi du plaisir. Parce que nous avons du plaisir à ces choses-là, c'est-à-dire le plaisir à des sons musicaux agréables qui résonnent en nous. Le plaisir d'entendre des sonorités agréables, de belles couleurs, etc. Tout cela, c'est de l'ordre du moyen de l'imitation et engendre aussi un plaisir qu'on pourra dire de type esthétique ou sensible, en fait.
Hein. Oui.
Mais ce plaisir-là, qui existe, nous dit Aristote, il l'intéresse assez peu parce que c'est un plaisir de type un peu trop matériel pour lui.
Alors, on va venir maintenant à quelque chose qui souvent est mieux connu, mais c'est bon d'y revenir pour qu'on précise la donne. C'est cette notion de plaisir cathartique, de catharsis, qui est souvent utilisée, alors parfois plus au sens du XVIIe siècle, la préface de Phèdre par Racine qui reprend cette notion à Aristote. Maintenant, nous sommes à la source, avec Aristote. J'aimerais que vous nous précisiez les choses. Pour cela, écoutons un passage décisif dans la poétique d'Aristote au chapitre 6.
Nous parlerons plus tard de l'art d'imiter en hexamètre et de la comédie. Traitons maintenant de la tragédie, en précisant la définition de son essence telle qu'elle découle de ce que nous avons dit. La tragédie est donc l'imitation d'une action noble et achevée, ayant une certaine étendue, dans un langage relevé d'assaisonnement dont chaque espèce est utilisée séparément selon les parties de l'œuvre. Cette imitation est exécutée par des personnages agissants et n'utilise pas le récit. Et, par le biais de la pitié et de la crainte, elle opère la catharsis des émotions de ce genre. J'entends par « langage relevé d'assaisonnement » celui qui comporte rythme, mélodie et chant, et par « espèce utilisée séparément » le fait que certaines parties sont exécutées seulement en maître, alors que d'autres le sont à l'aide du chant.
Pitié et crainte sont les mots-clés dans ce texte pour comprendre ce que Aristote appelle la catharsis. Néanmoins, j'aimerais bien que vous m'aidiez à comprendre mieux, William Marx, s'il vous plaît.
Alors la catharsis, c'est le troisième plaisir lié à l'imitation, en tout cas le plaisir propre à la tragédie. Bon, nous venons d'entendre cette définition très très fameuse de la tragédie, où il faudrait reprendre chaque terme, où en fait, ici, Aristote fonctionne par discrimination, l'imitation d'une action noble, ça sépare la tragédie de la comédie, qui elle est plutôt l'imitation d'une action basse, ayant une certaine étendue, c'est avec un certain type de langage, ça discrimine par rapport à d'autres types de poésie, par des personnages et non pas par le récit. Donc ça veut dire qu'on est au théâtre et non pas par quelqu'un qui raconte l'histoire. Donc on n'est pas dans l'épopée, oui. Où là il y a un narrateur. Donc
là, voilà. Il y a de l'héroïsme.
Il y a de l'héroïsme.
Et là, c'est encore d'autres sentiments.
Les personnages peuvent être de type héroïque ou exemplaire. Mais en tout cas, dans la tragédie, on imite, l'action est faite par des personnages qui sont sur la scène. Mm-hmm. Et non pas par un poète qui raconte l'histoire comme Homère. Donc d'accord. C'est là une différence. Bon. Et puis, que fait la tragédie ? Par le biais de la pitié et de la crainte, elle opère la catharsis des émotions de ce genre. Alors,
purification, c'est ça que ça veut dire ?
Je préférais pour l'instant utiliser le terme de catharsis, voilà. Parce que sinon on peut utiliser le terme purgation, épuration, purification, et tous ces termes en fait nous éloignent, me semble-t-il, et nous déjà impliquent déjà des idées, des préjugés que nous avons sur la catharsis. Alors qu'il faut d'abord partir
entendu.
Du concept grec, du mot grec, et puis après on essaiera de comprendre ce que
entendu,
ça peut
oui.
signifier. Donc, en tout cas, tout fonctionne dans l'imitation tragique par le biais de la pitié et de la crainte. Aristote n'est pas le premier à dire que la pitié et la crainte sont les émotions absolument fondamentales de la tragédie. On a ça chez Platon, on a ça chez Gorgias, etc. Pourquoi la pitié et la crainte sont-elles des émotions fondamentales dans la tragédie ? Elles sont des émotions fondamentales parce que, en fait, nous éprouvons de la pitié pour les personnages à qui il arrive des malheurs devant nous. Et puis nous éprouvons de la crainte aussi pour eux, parce qu'on se met, on se met à leur place. Et donc ce qui se passe dans la tragédie, et qui est lié au fait qu'elle est une imitation, c'est que, en vérité, le personnage tragique n'est pas n'importe quel personnage. C'est pas un personnage que nous voyons dans la rue. Nous voyons quelqu'un à qui il arrive un malheur dans la rue, nous n'éprouvons que de la pitié. Parce que c'est quelqu'un qui est autre que nous. Mais le personnage tragique, nous dit Aristote, il a été conçu par l'auteur tragique dans une relation éthique particulière avec le spectateur. Il faut que le personnage ne soit ni totalement bon, ni totalement méchant, mais qu'il soit un peu normal, c'est-à-dire plutôt bon, mais avec un peu de défaut, un peu de vice en lui, comme tout un chacun. Pour que le spectateur puisse se reconnaître en lui, pour qu'il puisse y avoir une action d'identification. Et donc, nous éprouvons pour le personnage, pour Édipe par exemple, nous éprouvons de la pitié, comme si c'était quelqu'un d'extérieur à nous, mais en même temps, comme ce personnage nous ressemble aussi, parce que Édipe, au bout du compte, il a commis ses crimes sans le vouloir, comme nous aussi, nous pouvons commettre des fautes sans le vouloir, nous pouvons nous mettre à sa place.
Oui.
Et donc, nous mettant à la place du personnage, nous dit Aristote, eh bien, nous éprouvons aussi de la crainte, parce que nous pouvons imaginer tomber nous aussi dans ce même type de malheur. Donc il y a une dimension exemplaire de ce qui arrive au personnage. Et donc nous avons au même moment, par le biais de l'imitation tragique, hein, qui choisit cette idée de ce principe même d'identification, eh bien nous éprouvons au même moment à la fois de la pitié et de la crainte. Et alors, il y a là quelque chose d'autre qui se passe, parce que pour Aristote, la pitié et la crainte sont deux émotions contradictoires. C'est-à-dire qu'elles sont antinomiques entre elles du point de vue de la physiologie. Il y a en effet chez Aristote toute une réflexion de type physiologique sur les émotions liées à l'existence pour lui des humeurs, hein, c'est-à-dire d'un mélange humoral, de liquide labile et d'autres types de liquides que nous avons en nous, qui sont sans cesse échauffés ou refroidis selon les circonstances. Il y a des émotions chaudes. Il y a des émotions froides. On a ça dans les mouvements des animaux, etc. La pitié, c'est un mouvement, nous induit à aller vers la personne. C'est un mouvement donc de chaleur, en fait. Donc la pitié est un mouvement qui va réchauffer le mélange humoral. La crainte, en revanche, est un mouvement de retrait. Et à ce moment-là, il y a un refroidissement de l'humeur. Eh bien, la conjonction de ces deux mouvements qui ont lieu de manière, on l'a dit, concomitante, hein, dans la tragédie, pitié et crainte, c'est-à-dire va à la fois réchauffer et de l'autre refroidir le mélange humoral, et donc ça va créer, eh bien, un équilibrage du mélange humoral. Et c'est cet équilibrage qui est qualifié par Aristote de catharsis. Dans d'autres textes, ça pourrait nous paraître bizarre, parce que épuration, purification, ne renvoie pas pour nous à l'idée d'équilibre. Mais dans d'autres textes, des mouvements, des animaux ou des problèmes, Aristote dit, quand on se promène dans la neige, quand il fait très froid, on éprouve une catharsis. Pourquoi ? Parce que on se réchauffe intérieurement, mais de l'autre, mais à l'extérieur, il fait froid. Et donc c'est la conjonction du froid et du chaud qui va créer une catharsis, c'est-à-dire en fait un mouvement de soulagement.
Mais alors de soulagement, d'équilibrage,
soulagement, des humeurs, c'est le bon terme.
Serait ça le bon terme, soulagement.
Soulagement.
Donc, je dirais d'un point de vue médical, au sens de la médecine grecque des humeurs, c'est bon pour nous.
C'est bon pour nous.
Mais cela nous rend-il plus moral ? Puisque c'est quand même cela qu'on entend souvent, peut-être à tort, me direz-vous, dans le mot catharsis. Est-ce qu'il y a quelque chose qui nous rend plus moral dans ce soulagement dont vous parlez pour traduire la catharsis ?
Ça a été la compréhension, à partir du XVIIe siècle, de la catharsis, la catharsis d'Aristote.
Chez Aristote ?
Je ne suis pas sûr que ce soit premier chez lui. Je pense que la dimension morale, elle arrive en second. C'est-à-dire que il y a ce soulagement qui est provoqué, qui est un soulagement de type physiologique. Et le fait est que ce soulagement fait que, dans la mesure où il y a une union très claire et un parallèle entre ce qui se passe dans l'esprit, dans l'âme et dans le corps, effectivement, nous sommes délivrés des passions. Parce que la pitié, la crainte, ce sont pour Aristote des choses au bout du compte négatives dont il faudrait se débarrasser. L'état de sagesse auquel nous devrions atteindre est un état où l'on devrait être délivré de toutes ces émotions qui nous agitent, on devrait arriver à un certain équilibre. Et donc de ce point de vue-là, Il y a un équilibrage et un soulagement de toutes ces émotions du même genre, nous dit Aristote. Hein, c'est-à-dire les émotions qui réchauffent, les émotions qui refroidissent, pour arriver à une sorte de juste milieu, en vérité, au sens aristotélicien un peu basique du terme.
Donc la fameuse phrase de Racine au XVIIe, les passions ne sont présentées dans Phèdre aux yeux de tous que pour montrer tout le désordre dont elles sont cause, et tout ce vice finit par stimuler la pitié et la piété, pardon, dit-il plus loin, et la vertu. Tout ça, c'est du Racine, c'est pas du Aristote.
Je pense que c'est beaucoup plus du Racine que du Aristote. Le problème que s'était posé Aristote, c'était le problème posé par Platon. Comment se fait-il que nous éprouvions nous éprouvions du plaisir à voir les malheurs des autres, et aussi, est-ce que la tragédie est si néfaste que cela pour la cité, qui était la question posée par Platon. Et Aristote nous dit non. Au bout du compte, il y revient un petit peu dans la politique. Au bout du compte, la musique, les grands événements musicaux, théâtraux, arrive à soulager les citoyens de leurs émotions fortes. Et ça, c'est pour le coup, c'est une bonne chose.
Et donc, dernière question pour vous, Fulcrant Tesserin. Est-ce que ce soulagement, cet équilibrage, tout ça, ça n'a pas d'importance pour Platon, parce qu'il y a quelque chose de vicié, d'immoral, lié au fait que on n'est pas dans la réalité, c'est ça ?
On est souvent hors de la réalité, mais pas toujours. Il peut y avoir de bonnes imitations chez Platon, et donc il peut y avoir aussi quelque chose comme un rééquilibrage des passions par le texte littéraire et par le texte mythologique. Je pense notamment à tous les mythes que Platon a lui-même écrit. Il peut y avoir de cela. Malheureusement, c'est pas la règle. Pour lui, il y a des mythes qui sont et des histoires qui sont mal construits, qui sont mal informés et qui, à ce titre, induisent donc des affects ou des passions qui sont malvenus. J'ajouterais peut-être aussi qu'il y a chez Aristote quelque chose qu'il n'y a pas chez Platon, c'est que somme toute cette catharsis, c'est également, je suis tout à fait d'accord avec l'analyse, le compte-rendu physiologique que Monsieur Marc vient de faire, mais je me demande s'il n'y a pas aussi dans cette catharsis une sorte de sublimation même de la pitié et de la peur et de la crainte, et que c'est une connaissance sensible qui devient possible par la tragédie, et nous devenons sensibles, nous sommes émus par des situations, par des actions, par des interactions entre les hommes, et c'est, je crois, ce savoir sensible aussi qui se développe et qui se déploie à la faveur du poème tragique.
Et ça n'intéresse pas beaucoup Platon.
Platon n'y est pas sensible. Je crois qu'il y est quand même très sensible, puisque lui-même compose des choses de cet ordre. Il décrit, dans le Phèdre en tout cas, par exemple, l'effet que cela peut produire. Mais il ne le théorise peut-être pas de manière aussi précise qu'Aristote.
Imitation of life.
Imitation of Life, c'est une chanson de R.E.M. de 2001. Merci beaucoup Fulcran Tesserin et William Marx. Les références de vos travaux sont sur notre site. Je vous propose maintenant d'écouter la chronique de Frédéric Worms. Cette semaine, il se demande s'il y a encore des printemps et il réfléchit au printemps. Voici le pourquoi du comment.
Pourquoi le printemps nous surprend-il toujours ? Il faut imaginer le philosophe Vladimir Jankélévitch et son épouse ouvrant leurs fenêtres alors que le printemps commence. Et voici, c'est ce qu'il raconte en effet à Guy Suarez dans le livre qu'il lui avait consacré dans une vieille collection intitulée « Qui suis-je ?». Voici en effet cette surprise que raconte Jankélévitch. Le printemps est une chose très simple. Le printemps que nous attendons, qui n'est pas encore là et qui, chaque fois qu'il arrive, nous inspire une joyeuse surprise. Comment ? Ne le saviez-vous pas ? Ne saviez-vous pas qu'il y a un printemps ? Chaque fois qu'on revoit des bourgeons aux arbres, ma femme m'appelle, me dit « Tiens, il y a des bourgeons !» comme si c'était extraordinaire. Et pourtant, le printemps, rappelle Jankélévitch, tous les ans, il y a un printemps. C'est donc une répétition. Mais malgré tout, c'est une surprise dans l'identique. Or, comment ce qui se répète, ce qui fait l'objet d'un cycle naturel, ce qui est la régularité même du monde, d'une attente, d'une habitude, tous les ans, il y a un printemps, pourquoi est-ce que cela nous surprend ? Et pourquoi est-ce que cela nous surprend particulièrement par rapport au printemps ? Vladimir Jankélévitch, est-il vraiment creusé jusqu'au bout ? Et il l'a fait, mais peut-être peut-on aller plus loin encore. A-t-il creusé jusqu'au bout la singularité du printemps ? Pourquoi est-ce que c'est le printemps toujours qu'il prend comme exemple de cette surprise devant la nouveauté du temps ? L'hiver ne semble pas le surprendre de la même façon, ni l'automne, ni l'été. Alors pourquoi le printemps dans cette singularité de la surprise ? Il faut se poser cette question. Pour échapper à l'alternative de la nouveauté permanente de tous les événements qui nous sidèrent, et l'événement, la surprise, est peut-être tout le temps présente. Bergson, le maître de Jankélévitch, disait qu'il y a une poussée continue d'irrépressibles nouveautés, de jaillissements continus de nouveautés imprévisibles, d'un côté. Et d'un autre côté, il y a le Qohélète, le sage de la Bible, qui dit « il y a un temps ». Pour tout, il y a un temps pour vivre, un temps pour mourir, un temps pour le printemps, un temps pour l'hiver. Il n'est surpris par rien, le prophète. Il n'est surpris par rien, alors que Bergson est surpris par tout, et Jankélévitch aussi. Mais alors pourquoi le printemps ? En réalité, au-delà de l'alternative de l'événement tout le temps nouveau ou de la répétition toujours identique, la surprise de Jankélévitch, dans sa double facette, nous indique la polarité vitale de notre surprise et de notre rapport au temps et au monde. Oui, le printemps nous surprend particulièrement parce qu'il tranche sur l'hiver. Oui, l'hiver, c'est aussi le signe de la dépense de l'énergie, de la fatigue du monde, de la fatigue de nos corps, la métaphore du vieillissement et de la mort. Tandis que le printemps, c'est la renaissance, c'est la poussée de la sève, c'est le retour de la vie. Oui, on ne peut penser l'alternative du printemps et de l'hiver ni comme une répétition éternelle ou un éternel retour, ni comme une surprise anodine. C'est en fait la polarité de la vie et de la mort, la polarité de la création et de la destruction. C'est la polarité du monde et de nos vies.
Merci Frédéric Worms. Nos émissions peuvent être réécoutées en podcast. Cette émission a été réalisée par Nicolas Berger et Margot Page avec à la technique Dalia. Elle a été préparée en particulier par Armance Bourquin et toute l'équipe d'Avec Philosophie, Anna Fulpin, Chaïma Giboire, Carla Michel, Axel Dubois et Nassim El-Kabli. Vous êtes bien sur France Culture, vive la curiosité.